Radio Prague, les informations.
Ouverture de négociations sur l'installation d'une base de radar américaine en Tchéquie. Grève des médecins généralistes tchèques. Inauguration d'une usine de téléviseurs chinois dans la ville de Nymburk. La République tchèque a officiellement ouvert les négociations avec les États-Unis sur une éventuelle installation d'une base de radar américaine sur le territoire tchèque. Le gouvernement a approuvé le projet d'une note dans ce sens. Selon le ministre tchèque des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg, les négociations avec la partie américaine pourraient durer jusqu'à la fin de cette année. Selon le premier ministre Mirek Topolánek, une éventuelle installation du radar devrait être approuvée par le Parlement tchèque. La majorité des cabinets de médecins généralistes dans la région de la ville de Zlín en Moravie sont restés fermés ce mercredi. Les généralistes ont protesté de cette façon contre la décision de la Caisse générale d'assurance maladie ayant refusé d'augmenter les prestations d'assurance maladie. L'action a été organisée déjà pour la deuxième fois cette année. La première fermeture des cabinets a déjà eu lieu le 14 février dernier. Les présidents tchèques et allemands Václav Klaus et Horst Köhler se sont entretenus lors de leur courte rencontre ce mercredi dans la ville de Teplice en Bohême du Nord des relations tchéco-allemandes. Selon Václav Klaus, ils ont évoqué également la problématique de la constitution européenne. Ils ont constaté que les relations tchéco-allemandes sont très bonnes, mais ont évité de parler du récent projet d'installation d'une base de radar américaine sur le territoire tchèque. Le premier ministre tchèque Mirek Topolánek n'obligera pas le vice-premier ministre et chef du parti chrétien-démocrate Jiří Čunek à démissionner à cause de son inculpation dans une affaire de corruption. D'après Mirek Topolánek, le vice-premier ministre considère un tel pas comme l'aveu de sa culpabilité et c'est pourquoi il refuse de présenter sa démission. La société chinoise Shangong Europe Electric a officiellement inauguré ce mercredi la production dans son usine de fabrication de téléviseurs dans la ville de Nymburk en République tchèque. La société se classe parmi les plus importants fabricants d'électroménager en Asie. Les archéologues tchèques ont découvert dans la ville de Přerov en Moravie un important ensemble d'ossements de mammouth. Les ossements proviennent de la fin du paléolithe, c'est-à-dire de l'époque il y a 30 000 à 25 000 ans. Le réalisateur français Olivier Dahan est venu au festival Fébiofest à Prague pour présenter son film sur la vie d'Edith Piaf intitulé « La môme ». Le film avait été réalisé en grande partie en République tchèque. Météo. Ce jeudi, fête de toutes les Tatiana, selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie sera nuageux à variable, avec quelques faibles précipitations par endroit. Les températures diurnes se situeront entre 9 et 13 degrés. Sur l'ouest du pays, elles peuvent atteindre encore 15 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Très heureux de vous retrouver pour présenter notre magazine d'actualité qui sera consacré au sujet suivant, la réduction du quota d'émission de dioxyde de carbone et la position de la République tchèque, un thème présenté par Guillaume Narguet. Nous parlerons aussi des raisons pour lesquelles les médecins généralistes et les pédiatres se sont mis en grève. Alexis Rosenzweig a assisté lundi à l'ambassade de France à la remise de la Légion d'honneur à Peter Kolach. Alena Gebertova était présente à une conférence intitulée « L'enfant entre la famille et les institutions ». Nous espérons que ce choix des plus variés saura vous satisfaire et nous vous souhaitons de passer d'agréables moments en notre compagnie. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, l'Union européenne attribue depuis 2005 un quota d'émissions de dioxyde de carbone à chacun des pays membres, une attribution qui s'accompagne régulièrement d'âpres négociations et qui ne fait pas toujours que des heureux, comme cela a été avec la République tchèque en début de semaine. Guillaume Narguet.
86 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an, alors que Prague en réclamait 102 millions, soit près de 15% de plus. Tel est le quota d'émissions qu'a accordé lundi la Commission européenne à la République tchèque pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012. Une décision accueillie avec satisfaction au ministère de l'Environnement dirigé par le leader du Parti des Verts, Martin Bursik, mais nettement moins du côté du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le ministre Martin Rjiman estime que ce faible quota pourrait avoir des répercussions néfastes sur la croissance économique du pays.
Étant donné qu'il s'agit d'une limite pour les 5 prochaines années et que la croissance de notre industrie se situe entre 7 et 9% ces dernières années, ce quota pourrait véritablement constituer une entrave à la poursuite de ces bons résultats. Et je ne parle même pas de l'augmentation inutile, probable, du prix de l'électricité et des autres conséquences du même type que cette décision risque d'entraîner.
Si la République tchèque a obtenu un tel quota, c'est parce que Bruxelles lui reproche d'avoir demandé plus de droits d'émission que ce que ses usines ont rejeté dans l'atmosphère jusqu'ici. En effet, depuis 2005 et jusqu'à la fin de cette année, l'industrie tchèque a été autorisée à émettre un peu plus de 97 millions de tonnes de dioxyde de carbone, un des 6 gaz à effet de serre répertoriés par le protocole de Kyoto. Or, en 2005, ces entreprises polluantes n'ont émis que 82 millions de tonnes. Une marge importante que le gouvernement tchèque justifie aujourd'hui en expliquant qu'à l'époque, le rythme de la croissance économique du pays s'était ralenti. Un argument que la Commission européenne n'a toutefois pas estimé recevable. Le ministère et les dirigeants des grandes sociétés industrielles s'inquiètent désormais des conséquences néfastes que l'attribution de ce nouveau quota pourrait avoir, notamment sur l'augmentation des prix de production. Car si une entreprise ne dispose pas de suffisamment de droits particuliers d'émission, elle est autorisée à racheter ceux d'autres entreprises dont les émissions sont au contraire inférieures au quota fixé. Mais un rachat qui se répercute forcément sur les prix de production puis de vente à la consommation. Reste que la décision de la Commission européenne n'a pas fait que des mécontents, notamment au ministère de l'Environnement. Sa porte-parole, Karolina Sulová, explique pourquoi.
Il s'est avéré que lors de la période qui s'achèvera à la fin de l'année, le quota des droits d'émission était trop important. Cela a entraîné une baisse du prix de ces droits et par conséquent, un grand nombre d'entreprises n'avaient pas de motivation à réduire leurs émissions. Désormais, puisque le nombre de droits sera moindre, leur prix va augmenter et cela va contraindre les entreprises à investir dans des technologies modernes plus effectives en consommation d'énergie et qui produisent moins de dioxyde de carbone. Cela signifie une augmentation de la capacité de concurrence des entreprises, mais aussi, bien entendu, une amélioration de l'environnement.
Quoi qu'il en soit, cette affaire est une nouvelle fois la preuve qu'il est décidément bien difficile de marier les intérêts des partisans d'une croissance économique rapide et ceux des écologistes soucieux du respect de l'environnement.
C'est pour la deuxième fois déjà que les médecins généralistes manifestent leur mécontentement contre les mesures prises par le ministère de la Santé. Le 14 février dernier, c'était surtout les médecins généralistes pour les adultes qui s'étaient mis en grève. Cette fois-ci, ce sont surtout les cabinets de consultation des pédiatres qui sont restés fermés. Le mouvement de grève lancé par l'Union des généralistes de la région de Zlín, dans l'est de la Tchéquie, est plus ou moins suivi sur tout le territoire. Certains médecins se sont mis en grève pour toute la journée de mercredi, d'autres pour une heure, d'autres encore n'ont fait que coller un tract sur la porte de leur cabinet où les raisons des protestations sont expliquées. Quelles sont donc ces raisons justement ? Explication de Ilona Hilerova, présidente de l'Union des généralistes pour les enfants et la jeunesse de Moravie du Sud.
Je crois que cette grève numéro 2 a lieu parce que la Compagnie générale d'assurance maladie n'a pas répondu positivement aux revendications des généralistes. Il s'agit des paiements pour l'année 2006 et en mars 2007, nous ne savons pas encore combien nous recevrons pour les soins dispensés en 2006. Ça concerne aussi les paiements pour cette année, car les accords n'ont toujours pas été signés et nous ne savons pas combien nous serons remboursés dans notre secteur.
Pour ten náš segment.
Les généralistes veulent surtout que la Compagnie Générale d'Assurance Maladie, VZP, leur verse plus de moyens financiers et qu'elle annule certaines mesures de régulation. La VZP a déjà accepté un grand nombre de revendications des médecins. Mais selon Lubomir Nečas, président de l'Union des médecins généralistes de la région de Zlín, cela ne suffit pas. En réponse à ceux qui critiquent la grève, Lubomir Nečas répond que les généralistes n'ont aucune autre possibilité de se faire entendre et explique.
Le processus conduisant à la fermeture des cabinets de consultation est une solution extrême à laquelle les médecins n'aiment pas avoir recours, mais ils ne savent plus à qui faire appel. Nous avons négocié avec la direction de la VZP, avec le ministère, les députés aussi. La VZP a diminué la régulation de moitié environ pour 2006, mais cela n'est toujours pas suffisant pour les médecins.
La Chambre des médecins tchèques soutient les protestations des généralistes. L'Union des patients, par contre, considère leur action comme une infraction aux bonnes mœurs et sans raison valable. Le prêtre jésuite Peter Collard a reçu cette semaine des mains de l'ambassadeur de France à Prague les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Passé à l'Ouest en 1968, Peter Collard est resté longtemps à Paris, d'où il a activement soutenu les émigrés et la dissidence tchécoslovaque. Aujourd'hui, après avoir été aussi journaliste, Peter Collard est membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel tchèque. Il a répondu aux questions d'Alexis Rosenzweig.
Peter Collard, c'est une consécration, un accomplissement de recevoir la Légion d'honneur.
Mais c'est toujours le sentiment qu'on est vieux, parce que c'est à ce moment-là qu'on reçoit les médailles, les récompenses, les fêtes, etc., c'est sûr. Mais d'autre part, c'est aussi un point d'orgue derrière mes activités à la fois en France et ici. Pour donner un seul exemple, j'étais chargé de service des réfugiés tchèques à Paris. Et revenu à Prague, je suis devenu aumônier du groupe francophone, essentiellement des Français. Donc en France, je servais les Tchèques et maintenant je servis les Français.
Quel est votre meilleur souvenir de cette période en France?
L'élément le plus surprenant et le plus émouvant pour moi, c'était les possibilités d'études, de formation que j'ai eues à Paris. Moi qui ne pouvais pas accéder à la formation correcte ici, je me suis retrouvé dans une maison où il y avait 130 000 livres dans une bibliothèque qui était la porte à côté de la mienne. J'avais la clé dans la porte. Et tous les ans, les trois professeurs, dont certains sont de renommée internationale, se sont penchés sur le sort de ce qu'on appelait le tchèque barré sans provision, c'est-à-dire moi, pour m'aider de trouver mon chemin dans la formation assez robuste et assez compliquée en France. Et c'est ce que j'amenais dans les bagages comme la chose la plus précieuse de mon séjour en France.
Vous avez également travaillé avec Pavel Tigrid. Quel est votre souvenir de cette collaboration?
Alors, de Pavel Tigrid, j'ai appris certaines choses, notamment, je lui ai posé une fois la question, comment tu fais? Nous tutoyons, évidemment, il était plus âgé que moi, mais je lui ai dit, mais comment tu as fait que ta revue, chaque numéro est si bon? Il m'a dit, il y a une chose qu'il faut faire. Tu la portes dans ta tête. Et chaque fois que tu rencontres un homme, une femme, tu vois une chose, tu te poses la question, est-ce que ce ne serait pas utile pour ma revue? Et si tu vas faire ça, ta revue, elle sera bonne aussi. J'ai amené comme journaliste avec moi.
C'est la revue Témoignage chez Letzby dont vous parlez. Et il y aura une plaque symbolique déposée le 10 avril prochain à Paris. Est-ce que vous serez à la cérémonie?
J'étais invité, mais malheureusement, je suis à Rome à ce moment-là, donc je ne pourrais pas y assister. Et en fait, elle aurait dû être apposée au moment où j'étais là pour l'anniversaire de la charte, mais il y avait du retard, je ne sais pas dû à quoi. Et je ne peux pas aller pour la seconde fois à Paris, même si j'aime la ville, j'y irai volontiers.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
L'enfant entre la famille et les institutions a été le thème d'une conférence franco-tchèque que Prague a accueillie ces deux derniers jours. Alena Gebertova.
Le nombre d'enfants tchèques qui vivent dans des pouponnières ou dans des foyers d'enfants reste dramatique. Comment faire pour permettre à une grande partie de ces enfants, issus le plus souvent de familles défavorisées, de retourner dans leur milieu naturel? La France, avec 70% des enfants qui, après avoir vécu dans différents établissements, réussissent à se réintégrer dans leur milieu naturel, dans des familles d'origine ou dans des familles d'accueil, peut servir d'inspiration Plusieurs spécialistes françaises sont venues à Prague pour transmettre à leurs homologues tchèques leurs expériences. Sylvie Barrière gère un établissement pour enfants âgés de 4 à 15 ans.
En fait, il s'agit d'échanger sur nos pratiques et sur les pratiques que nous avons en France actuellement. Dans l'ensemble du contexte du département, hein, de la France, puisque c'est un établissement public qui a à la fois des structures d'accueil d'urgence, des structures d'accueil à moyen long terme, une structure d'accueil mère-enfant et une structure d'accompagnement médiatisé des parents. Donc pour ce qui concerne ma structure, en fait, l'objet de la conférence est en fait de développer les outils qu'on a pu mettre en place ces dernières années pour accompagner au plus près l'enfant dans sa famille et tenter de faire de sorte que les relations entre l'enfant et ses parents évoluent de manière à ce qu'il puisse réintégrer sa famille un jour et le plus tôt possible.
Quels sont d'après vous les outils, les pratiques qui pourraient inspirer la partie tchèque ?
Alors, ce qui a pu évoluer ces dernières années en France, c'est tout le contexte légal sur lequel nous pouvons nous appuyer et le cadre d'intervention qu'il nous fournit. Ça me paraît essentiel de pouvoir accueillir les parents en leur expliquant que nous sommes missionnés par le juge, que nous sommes des professionnels, que nous avons des comptes à rendre aux magistrats, mais que nous sommes là aussi pour intervenir dans le cadre d'une aide à la famille. Ça n'est pas une punition, on n'enlève pas l'enfant définitivement. On explique aux parents qu'on va leur dire exactement ce que nous, en tant que professionnels, on ressent de la situation, mais on leur demande de faire la même chose, à savoir que les parents sont considérés dans leur fonction de parental, et que c'est essentiel pour pouvoir échanger et avancer avec eux.
Pensez-vous qu'en République tchèque, dans ce domaine, il y a un retard à rattraper par rapport à la France ?
Alors, je ne connais pas très bien le fonctionnement effectivement en République tchèque, mais au travers des questions qui ont pu m'être déjà posées, je ressens une situation qui ressemble à il y a quelques années en France, où effectivement on avait des pratiques différentes. Quand j'ai commencé mon travail, les enfants étaient confiés indéfiniment, il n'y avait pas de durée de mesure, il n'y avait pas de demande de la part des magistrats de faire des rapports. Là, les lois françaises sont venues compléter ce dispositif en insistant sur la nécessité du droit à l'intimité, du respect de la personne, qu'elle soit enfant, qu'elle soit adulte. Et c'est ce qui nous a permis aussi d'avancer, c'est essentiel.
La coopération et les échanges de vues entre spécialistes tchèques et français ne s'arrêteront pas avec cette conférence. Ils continueront notamment au niveau régional avec le soutien du Fonds social européen.
Eh bien, si cette revue de l'actualité a attiré votre attention, ne quittez pas l'écoute. Nous allons maintenant nous plonger dans l'histoire sur les ondes de Radio Prague avec Alena Gebertova et Alexis Rosenzweig.
Chapitre de l'histoire tchèque.
Une fois n'est pas coutume, nous parlons aujourd'hui de la ville de Prague, un sujet aussi atemporel qu'actuel. Car si la ville dorée compte parmi les plus belles et les plus visitées d'Europe, c'est aussi parce qu'elle a su résister aux effets parfois pervers du développement industriel et économique.
Ty petřínské stráně, když mou milou s jiným vidím, vzpomenu si na ně.
En 1784, Prague devient Prague. Cette année voit en effet la fusion de trois quartiers-villes séparés administrativement. La vieille ville, la nouvelle et Malastrana. Le quartier juif, Josefov, ne sera lui intégré officiellement à la ville qu'en 1848. Chaque parti n'en garde pas moins une organisation distincte, avec par exemple un système de numérotation spécifique. Sans parler d'esprit de clocher, ce cloisonnement apparaît toutefois anachronique dans une capitale européenne à cette époque.
Au début du XIXe siècle, Prague s'étend encore au sein des limites fixées par l'empereur Charles IV, 5 siècles plus tôt. Elle accuse alors un certain retard par rapport à d'autres grandes villes européennes, comme Vienne ou Paris. Depuis la défaite de la Montagne Blanche, la capitale de Bohême souffre d'un certain provincialisme politique. Symbole de cette baisse d'importance, Prague, lieu de résidence traditionnelle de l'empereur, ne verra que le roi de France Charles X, exilé, habitait un temps entre les murs du château.
Tout au long du siècle, cependant, la ville connaît un développement rapide, alors qu'en parallèle, l'élément tchèque devient prépondérant, à tel point qu'en quelques décennies, Prague reprend sa place au sein des capitales européennes.
Вечер за Страховською браною, жди, když видав гвіздечки. Вечер за Страховською браною, жди, když видав гвіздечки.
Tout commence en 1815. La ville entame son extension vers les faubourgs proches. Le premier village à s'intégrer à Prague est Karlin, qui s'appelait initialement Spitalsko, de l'hôpital, car les chevaliers de la Croix-Rouge l'administrent jusqu'en 1848. Formé en grande partie d'ouvriers, vivant dans d'anciennes fermes, la population de Karlin s'élève à environ 9000 habitants en 1850. En 1837, c'est au tour de Smichov de s'intégrer.
En 1880, la population pragoise stagne à 162 000 habitants. Une décennie plus tard, elle augmente des 93 000 habitants des faubourgs. À cette date, il faut dire que le nombre de faubourgs intégrés a augmenté. Karlin et Smichov, mais aussi Zhishkov, l'ouvrière, et Vinohradi, la résidentielle. À tel point que dans les années 1920, on est passé à Prague à 320 000 habitants. L'annexion formelle à la ville ne se fera toutefois pas sans certaines résistances, notamment de la part de Karlin et Smichov, qui craignent une augmentation de l'impôt foncier.
Le nouveau visage de la ville s'accompagne d'une modification de sa répartition sociale. La population aisée tend de plus en plus à déserter le centre-ville au profit de certains faubourgs. Le quartier juif est également abandonné par ses habitants d'origine. Quant à Malastrana, qui semble flotter dans des habits séculaires, elle appartient comme le marais à Paris, à la noblesse qui en garde le contrôle.
À la fin du XIXe siècle, Prague a repris son rang au sein des capitales modernes d'Europe. Les transports en commun se développent ainsi rapidement. Ce sont d'abord les omnibus à chevaux à partir de 1870. On en compte 7 lignes en 1890. Un an plus tard, le premier tramway électrique, produit par l'industriel František Křižík, voit le jour.
Když měsíček nad Prahou vychází a hvězdy jasně svítí, má panenka se s jiným prochází.
Au XIXe siècle, c'est également l'image de Prague qui change radicalement. L'image des touristes tout autant que celle qu'en donnent les artistes et écrivains pragois. La ville se personnifie peu à peu et il faut noter la forte influence de Paris dans cette évolution. Le livre de Jeune Su, Les mystères de Paris, qui dépeint un Paris pittoresque et énigmatique, sert de référence à de nombreux écrivains pour élaborer l'image d'une Prague magique, celle de la ville aux 100 clochers.
Une telle influence est visible dans le roman qu'écrit Gustav Mehring en 1915, le célèbre Golem. Point de géant d'argile dans ses pages, mais un esprit qui semble imprégner la ville d'un voile mystique. Kafka lui-même aimera à personnifier Prague de manière inquiétante en parlant de cette petite mer qui a des griffes.
Malostranské střechy, střechy uzardělé, slýchali mé vzdechy, slýchali mé vzdechy, mnohdy noci celé.
L'époque communiste fera replonger Prague dans une léthargie presque inconnue jusqu'alors. Les plaques annonçant une chute possible de corniche ou de revêtement ne choquent même plus dans les années 60. Le régime communiste crée de toutes pièces de nouvelles villes tout autour de Prague qui s'intègrent à celle-ci. Avec la construction de ces grandes tours de béton, appelées panelaké, certains parlent avec ironie de la ville aux 100 tours. Heureusement, le centre-ville est épargné par les constructions intempestives du régime, même si, faute d'entretien, il se détériore. D'ailleurs, il devient vite bien moins prisé que les nouvelles habitations périphériques, sans charme mais confortables.
À la différence de Paris, Prague n'a pas connu de rénovation dantesque comme fut celle de Paris par Haussmann dans les années 50 du XIXe siècle. La seule entreprise notable aura été la destruction et l'assainissement de l'ancien quartier juif au début du XXe siècle. Ayant échappé au percement de grandes avenues, Prague a gardé sa physionomie historique avec cet enchevêtrement de styles architecturaux si caractéristiques.
Narečený z Belvederu ušlapaná cestička, chodívali po ní všeru.
Voilà, c'est déjà la fin de ces chapitres de l'histoire préparés par David Allon et présentés aujourd'hui par Alena Gebertova et Alexis Rosenzweig. À très bientôt sur Radio Prague.
Řekla, ach můj bendelínku, a hned mlaskla hubička.
Il est temps de prendre congé de vous en vous invitant à l'écoute d'une prochaine émission préparée et réalisée par la rédaction française de Radio Prague.
Neboť byla temná noc, nad Prahou tančily hvězdičky, na nebi měsíc se smál, vítr jim na suché větvičky písničky do tance hrál. Nad Prahou tančily hvězdičky, na nebi měsíc se smál. Vítr jim na suché větvičky písničky k tanci hrál.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.